Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Jean Dormesson, bonjour, merci de me recevoir chez vous, sur vos terres, de recevoir nos auditeurs, et ceci pour nous parler de votre ouvrage « Un jour, je partirai sans en avoir tout dit », paru chez Lafon. Mais nous parlerons d'un ouvrage encore plus récent que votre fille Héloïse Dormesson vient d'éditer, mais nous en parlerons à la fin parce qu'il est sorti hier.
Il n'est pas encore sorti.
Il n'est pas encore sorti.
Il sort dans un mois.
Alors merci de nous donner la primeur. Ah,
c'est une primeur absolue.
Tout à fait. Alors avant toute chose, je dois vous dire combien nos auditeurs, parce que certains auditeurs ont su par la rumeur que je venais vous voir, donc et que l'équipe de Radio Présence, nous nous réjouissons tous de de l'amélioration de votre santé.
Voilà. Merci.
Alors
beaucoup.
Tous nos voeux vous accompagnent.
Merci.
Alors, on va parler de votre livre. Vous êtes un habitué des beaux titres. Certains empruntés à Aragon et à ce magnifique poème qui
ah oui,
un jour je partirai. Je l'ai appris à cause de vous, je l'ai appris par cœur. Et je me suis dit, mais le prochain livre, ce sera la troisième ligne du poème.
Peut-être, c'est pas exclu.
Alors, mais quand même, je m'interroge. Parce que vous dites sans en avoir tout dit. Alors, est-ce que c'est un manque de temps pour l'instant, un manque d'envie, une incapacité, et là on le comprend, à élucider certains mystères, une forme de pudeur, qu'est-ce que c'est? Sans en avoir tout dit.
Je crois d'abord il y a une faute de français dans le titre.
Oui.
Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. En, de quoi?
Oui,
ça,
voilà.
Ça renvoie au vers d'avant. C'est une chose étrange à la fin que le monde, un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Et qu'est-ce que ça signifie d'abord? C'est que le monde est inépuisable. Vous savez, il y a une réplique de Shakespeare très célèbre, il n'y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans tous les livres des philosophes. Eh bien, c'est vrai. On a toujours l'impression, quand on a terminé un livre, on se dit, mon Dieu, voilà un livre qui va compter, et on se rend compte que c'est rien, c'est une goutte d'eau.
On parlera des traces qu'on laisse de cette manière-là, que les artistes, que les écrivains, parce qu'à la page 222 de votre livre, vous dites que vous l'avez écrit par un concours de circonstances. Est-ce que vous voulez que je vous relise ce passage?
Oui, peut-être.
Alors, vous dites, c'est l'accumulation de ces hasards allant tous dans le même sens, se soutenant les uns les autres, évitant l'effondrement, se jouant des obstacles, des cul-de-sac, des contradictions, jonglant avec les échecs, collectionnant les succès, qui m'a poussé à écrire ce livre qui souffle sur mon grand-père et qui s'achève dans les étoiles. Bon, finalement, il n'y a pas de hasard.
C'est vrai. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ces livres? D'abord, on m'a beaucoup reproché en disant « ce n'est pas un roman ». Eh bien, c'est évidemment un roman. C'est un roman, je vais vous dire tout de suite, il y a un personnage qui s'appelle Pama Carpo dans ce livre. Et j'en reçois énormément de lettres de lecteurs.
Qui cherchent sur Internet
Oui. Et beaucoup de lettres me disent « j'ai connu ce Pama Carpo ». Est-ce que vous pouvez me donner ses coordonnées? J'aimerais bien le retrouver. Je suis obligé de répondre, je ne peux pas vous donner ses coordonnées. Il est entièrement inventé. Donc, ces livres sont vraiment des romans. Qu'est-ce qui m'a poussé à les écrire? En effet, c'est le spectacle du monde, qui est un spectacle tellement stupéfiant, n'est-ce pas? Les hasards, la marche de l'histoire. La marche de l'histoire est évidemment un nid pour les livres. Mais on peut se dire qu'au-delà de la marche de l'histoire, ce qui est un roman extraordinaire, mais c'est l'univers. L'univers est un roman extraordinaire. Et on soutiendrait volontiers qu'il n'y a qu'un romancier, c'est Dieu. Et que les autres romanciers prennent des petits bouts de la création de Dieu pour les mettre ensemble de façon plus ou moins réussie, plus ou moins habile, plus ou moins intelligente. Et de la même façon, on peut dire qu'un peintre ne fait que reprendre l'œuvre de la création. Il y a quelques années, il y a eu au bac un sujet sur lequel on m'a interrogé, et c'était « Y a-t-il une autre beauté que l'art ?» Et la réponse est évidemment oui, la nature, la beauté de l'art, ce n'est que de reprendre des fragment oui. aussi de cette extraordinaire création qu'est le monde. Et on peut soutenir que le hasard ou Dieu, selon les opinions, c'est le plus grand romancier, le plus grand peintre, le plus grand musicien, et que les hommes...
Le créateur.
C'est le créateur. C'est le créateur. Et alors, c'est ça, évidemment, qui m'a poussé à écrire cette série de livres.
Alors, dans votre ouvrage, Marie, on parlera de Marie, vous reproche de vous répéter. Alors, moi, je me suis dit, ben, dans le fond, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et puis, je me suis dit aussi que, en fait, j'ai été enseignante et je sais qu'il faut rappeler les choses, les traiter autrement, légèrement différemment, pour que les gens comprennent bien ce que l'on veut dire. Parce que, en fait, vous êtes philosophe. C'est une manière de mettre la philosophie à portée de tout le monde.
Alors, vous savez, je me mets quelquefois sous l'invocation de François Mauriac. On reprochait aussi à Mauriac, on lui avait fait exactement le même reproche, on lui avait dit, vous écrivez toujours la même chose, c'est toujours les Landes, c'est toujours la famille qui ne marche pas bien, c'est toujours
ce que l'on connaît.
La soupe aux choux, il y a un peu de strychnine dedans. Et il avait fait cette réponse qui m'avait enchanté, vous vous rappelez la voix de Mauriac.
Oui, très cassée.
C'est une malédiction, dès que j'écris quelque chose, c'est du Mauriac. Et ben de la même façon, je crois que je peux dire, très modestement, de la même façon, si j'écris quelque chose, je suis assez heureux qu'on reconnaisse tout de suite
voilà.
que c'est du Laurence.
Exactement, exactement. D'ailleurs, en fait, ce qu'il y a dans vos écrits, c'est le fait de vouloir témoigner sans donner de leçons de morale.
Voilà, c'est ça. Vous savez, on dit aujourd'hui que les Français sont fatigués des discours politiques. Et je crois que c'est vrai, je crois que les promesses politiques ne passent plus du tout. Eh bien, je dirais de la même façon qu'il y a une forme de morale ou de moralisme qui ne passe plus. Bien sûr que je suis attaché à un certain nombre de valeurs, mais il faut en parler avec prudence, parce que quand on voit les gens, en effet, qui parlent de valeurs, on se dit quelquefois, et eux, et je ne voudrais pas avoir l'air d'être partial, mais en ce sens, le pape François est quand même un exemple formidable.
Absolument.
Quand il dit, qui suis-je pour
oui,
donner des
oui,
leçons
oui,
qui...
oui,
alors
oui.
si le pape dit ça, qu'est-ce que nous sommes pour donner
Tout
des
à fait.
Leçons
Oui, 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 et c'est un exemple pour le coup. Alors, vous parlez du monde et vous dites, dans votre ouvrage est à trois parties, tout passe. Alors, effectivement, tout passe.
Tout passe, tout c'est passe. Évident. Tout passe.
Oui.
Et nous passons.
Et nous, nous passons.
Et évidemment, c'est quand même... nous sommes là pour très peu de temps. Nous sommes là pour quelques douzaines de printemps et d'été. Et puis après, ça finit. Et évidemment, les choses changent extraordinairement.
Oui, alors, vous dites, pardon, excusez-moi, vous dites, notre civilisation est en train de passer la main. Alors, ça m'intéresse hautement.
Oui.
Vous pensez que, oui, nous passons...
Sûrement.
Oui, sûrement.
Écoutez, quand je vois un homme de ma génération, les choses ont plus changé en 100 ans qu'elles n'avaient changé dans les 2000 ans précédents.
Oui.
C'est extraordinaire. Et vous savez, il faut se méfier beaucoup. À la fin du 19e siècle, prenons un domaine, la science. Naturellement, la science a bouleversé le 20e siècle. À la fin du 19e siècle, il y a un grand savant français qui s'appelle Berthelot qui disait « Nous sommes arrivés au bout de la science. Nous savons maintenant comment est fait le monde. » Et Lord Kelvin, qui était un physicien anglais, disait à peu près la même chose. Nous n'avons plus grand-chose à découvrir. 15 ans après, ou 20 ans après, il y avait Einstein, le quantique,
oui.
Hubble,
oui.
Bohr, Heisenberg, oui. Tout était bouleversé.
Oui.
Alors il faut être très très prudent. Et on dit quelquefois que les Français sont pessimistes et mécontents. C'est vrai, j'ai vu un sondage où les Français sont plus inquiets que les Irakiens et que les Afghans.
C'est assez incroyable.
C'est dur. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a eu ces changements si forts. Naturellement, ça a toujours changé. Du temps de mes grands-parents, ça a changé aussi.
Et vous pensez qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter ?
Mais si lentement, qu'on savait que demain serait semblable à aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, les choses se précipitent à une allure absolument formidable.
Alors voilà pourquoi vous incriminez, entre guillemets, la science et la technique. Vous dites, c'est ce qui a tout perturbé quand même.
Ah, bah bien sûr.
Il y a du bon et du mauvais.
Alors, vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant.
Oui.
Je ne suis pas de ceux-là.
Oui.
D'abord, naturellement, il y a des périodes de l'histoire qui m'ont toujours paru très séduisantes. Prenons par exemple l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ ou la France du 18e. Mais est-ce que c'était tellement bien d'être là ? Si vous étiez du bon côté de la barricade, ça allait très bien.
Mais il y en avait beaucoup.
Mais si vous étiez du mauvais côté de la barricade,
absolument,
ça n'allait pas tellement bien.
Tout à fait.
Si la Révolution française a des racines, c'est dans ce délicieux 18e siècle.
Bien sûr.
Et il y avait un argument qui était donné par Jean Dutour, je me rappelle, qui disait « la Révolution était inévitable ». Il n'y a pas un seul grand général français à la fin du XVIIIe siècle. Il y a la Révolution. Mm-hmm. Et tout à coup, vous avez 20 Bonaparte, Lannes, 20 génies militaires. C'est parce qu'ils étaient bloqués par le système de caste. Mm-hmm. Vous ne pouviez pas devenir général s'il y avait un fameux décret qui avait été passé vers 1780, il fallait avoir 12 degrés de noblesse
pour accéder.
Comment voulez-vous que la révolution n'éclate pas ? Donc, les choses changent, et nous les voyons passer très très fort maintenant, et c'est très difficile d'être dans ces périodes de mutation très rapide.
Et de ne pas faire le tri.
Je ne suis pas de ceux qui disent que le passé c'était mieux, parce que est-ce que j'incrimine la science ? Je constate qu'elle est là. S'il n'y avait pas eu la science, mais vous ne m'intervieweriez pas.
Oui, la science médicale, effectivement, est extraordinaire.
Il n'y a pas seulement 100 ans, mais il y a 30 ans, je serais mort. Il y a 30 ans, je serais mort. J'ai été très malade.
Et beaucoup d'entre nous.
Pendant une année, et j'ai été sauvé.
Oui.
Et le médecin avait dit à ma femme, qui ne me l'a pas répété heureusement, il y a une chance sur 5 de le sauver. Eh bien, la science va sauver. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui vais l'incriminer. Mais c'est vrai que quand vous êtes entré, votre téléphone a sonné et vous avez tout de suite pris votre portable. Et je suis frappé quand je vais au restaurant, quand je vois des couples qui sont autour de moi, je vois souvent qu'au lieu de se parler, chacun d'eux parle à d'autres dans son portable. Et ça me fait toujours penser à ma grand-mère qui avait quelque chose entre les mains, c'était un chapelet.
C'est le recours.
C'est le recours.
Mais Michel Serres, que vous connaissez bien, a parlé dans Petite Poussette des jeunes qui lisent d'une manière.
Donc, il faut constater ça. Dire que c'est le regretter, on ne peut pas le regretter. Simplement, ce que nous avons découvert aussi, c'est que le progrès a ses avantages formidables et il a des inconvénients. C'est très ennuyeux qu'on coupe les arbres, c'est très ennuyeux qu'on pollue l'atmosphère. La science ne meurt pas parce qu'elle ne réussit pas, peut-être qu'elle risque d'échouer parce qu'elle réussit trop bien.
D'ailleurs, alors vous dites, l'homme est de plus en plus puissant et de plus en plus égaré.
Vous savez, si vous regardez le siècle passé, le 20e siècle, qu'est-ce qui vous frappe ? Dans 300 ans, qu'est-ce qui frappera ? Je crois qu'il y a deux choses qui frapperont. La science, naturellement, et puis ces deux guerres abominables. Alors, elles ont fait plus de morts qu'aucune guerre avant. Mais c'est vrai qu'il y a des savants qui m'ont dit, si vous reportez le nombre terrible des morts de la Deuxième Guerre mondiale à la population globale, vous voyez que ce n'est pas tellement pire que la guerre de 30 ans, ou peut-être que la guerre du Péloponnèse.
Proportionnellement, oui.
La guerre du Péloponnèse a tué la moitié des Grecs. La moitié des Grecs. Vous savez, c'était une guerre terrible. Oui. Naturellement, ils n'étaient pas très nombreux, donc il n'y avait pas beaucoup de morts. Mais quand vous avez 2 millions de population, si vous en perdez 200 000, c'est énorme.
Jean d'Ormesson, je vous propose une pause musicale et nous nous retrouvons dans un instant.
Frères humains qui bien après nous vivez, ne nous gardez pas de cyber-rancune. Même si tout au fond de vos âmes vous savez que des excuses on n'en a aucune. Frères humains qui portez nos chromosomes, qui bien après nous regardez au ciel, les mêmes étoiles pour croire en les hommes, en cherchant l'éternel. On veut croire qu'aucun de vous n'est de trop, chacun digne, chacun utile. Cette vallée de larmes n'a de sanglots qu'en l'âme de crocodile. Chérissez cette terre, qui savait que le malheur n'est pas une star. Accordez-nous le pardon élémentaire pour qu'on reste un peu vos mémoires. Frères humains, enfin on voulait vous dire pour ne pas faire mêmes horreurs que nous. Ne pensez pas qu'il n'est qu'accident le pire, il est en chacun de nous. On veut croire qu'aucun de vous n'est de trop, chacun digne, chacun utile. Cette vallée de larmes n'a de sanglots qu'en l'âme de crocodile. Oui, on veut croire qu'aucun de vous n'est de trop, chacun digne, chacun utile. Que cette vallée de larmes n'a de sanglots.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous Nous reprenons notre entretien avec Jean d'Ormesson chez lui, où il a bien voulu nous recevoir et recevoir les auditeurs. Et donc, nous reprenons notre entretien particulièrement centré sur son ouvrage « Un jour je partirai sans en avoir tout dit ».
Vous faites dans votre livre une remarque qui m'a fait rire. L'homme, maintenant, est de plus en plus orgueilleux alors qu'il ne se croit plus fils de Dieu, pour beaucoup, mais descendant des primates et des bactéries.
Oui, oui. C'est vrai, oui. C'est à ce moment-là que l'orgueil a éclaté.
Oui.
Vous vous rappelez, d'abord, qu'est-ce qui a menacé Dieu ? Ce qui a menacé Dieu, ce n'est pas du tout Copernic, Kepler, Newton, Einstein. Il ne menace pas Dieu du tout, il menace la place de l'homme dans l'univers. L'homme n'est plus le centre de l'univers. Mais Copernic était chanoine, Galilée était ultra-catholique, puisqu'il passe devant l'Inquisition, il était très catholique. Newton était absolument croyant. Ce n'est pas les astronomes qui menacent Dieu. Ce qui menace Dieu, c'est Darwin. Darwin, qu'est-ce qu'il découvre, Darwin ? Il découvre deux choses. Disons les choses. Disons, il faut dire des choses très simples. Qu'est-ce que la science a découvert sur l'univers au XXe siècle ? Des tas de choses formidables, la relativité, la pilule, le nucléaire. Elle a découvert surtout une vérité : l'univers a une histoire. Aristote ou les Grecs pensaient que l'univers était éternel. Il y avait juste un tout petit peuple qui pensait le contraire. C'était les Juifs, les Hébreux, ils pensaient que Dieu avait créé la Terre, avait créé l'univers. Et la science a découvert, ne donne pas raison à la Genèse, ne disons pas ça, le maître, le chanoine, le maître, disait qu'il ne fallait pas dire que le Big Bang, c'était nécessairement Dieu.
Je sais pas. D'autant qu'on a tendance à...
Mais il y a quand même une histoire, il y a un début et une fin. Et qu'est-ce que découvre Darwin ? Il découvre que cette histoire, au lieu d'avoir 6000 ans, Bossuet croit encore. Bossuet, c'est pas un imbécile, Bossuet, c'est un grand écrivain. C'est magnifique, Bossuet. Il croit que le monde a 6000 ans. Et Buffon va jusqu'à 100 000 ans. Mais Darwin découvre que c'est des millions et des millions d'années. Et la deuxième chose qu'il découvre, c'est que nous descendons tous d'une bactérie. Et ça, c'est embêtant pour Dieu. Parce que si Dieu crée l'homme et la femme, il peut créer une âme. Mais si nous descendons d'une bactérie, à quel moment est-ce que l'âme arrive chez l'homme ?
Voilà. Alors là, je ne vous donnerai pas de réponse. Mais en tout cas, il a créé la vie. Moi, je pense qu'il a créé la vie. Voilà.
Alors... Évidemment, vous savez comment je me présente. Je suis évidemment un tissu de contradictions. Je suis un gaulliste très européen. On pourra en dire quelques mots si vous voulez tout à l'heure. Je suis un homme de droite plutôt, qui a beaucoup d'idées de gauche. Et je suis un catholique. J'ai été élevé dans la religion catholique. Quand on dit qu'on a été élevé dans la religion catholique, c'est en général qu'on l'a quitté. Moi, je ne l'ai pas quitté, j'espère mourir dans la religion catholique, mais je suis un catholique agnostique. Alors on me dit, vous ne croyez pas à Dieu. Mais agnostique ne veut pas dire qu'on ne croit pas à Dieu, ça veut dire qu'on ne sait pas.
On n'a pas de preuves.
On n'a pas de preuves. D'ailleurs, on n'a pas de preuves est une formule étonnante. Il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui était Russell, grand philosophe anglais. Et on dit à Russell, qui ne croyait pas du tout à Dieu, on lui dit, si vous paraissez devant Dieu en mourant, supposez qu'il existe, qu'est-ce que vous lui direz ? Et il répondait, pas à cette preuve. Eh bien, je trouve que c'est une très mauvaise réponse pour un homme si intelligent. Dieu, ce n'est pas un institut de sondage. Il n'a pas besoin de preuves. Voilà. Justement, la foi, ce n'est pas une question de preuves. Mais il faut bien dire que quand vous croyez à Dieu, vous employez un verbe bien étonnant. Vous employez le mot « croire ». Vous ne savez pas. Vous croyez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Vous croyez. Oui, oui. Alors évidemment, moi aussi, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère.
Voilà.
Et je trouve qu'il y a quand même, dans l'univers, dans la vie de chaque jour,
des signes.
Tellement le hasard aurait... Mmh. Si c'est le hasard qui a créé le monde...
C'est un hasard fabuleux.
C'est des hasards fabuleux qui vont tous dans le même sens. Mmh. Mmh. Qui vont tous dans le même sens.
Eh oui.
Écoutez, il faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages, quand même. C'est là que je me suis dit, au fond, je crois en Dieu, j'en suis pas sûr, mais je crois en Dieu parce que le soleil se lève le matin. Si le hasard a réussi à faire lever le soleil, vous savez, c'est un hasard drôlement organisateur.
Et nous en avons bien besoin.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Jean Dormesson pour parler de son ouvrage « Un jour je partirai » sans en avoir tout dit.
Quand vous dites « tout passe », là j'ai énuméré parce que bon, vous parlez évidemment « tout change », l'orthographe, le sexe, les relations entre les individus, partie ethnique interposée. Également, vous parlez, vous dites, tout est remis en question. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de capitalisme, de religion. Alors, le communisme, le capitalisme, mais aussi le nationalisme, tout est remis en question, tout se mélange. Vous dites d'ailleurs une expression, un kaléidoscope fabuleux, il me semble.
Ah oui, un kaléidoscope.
Un kaléidoscope.
Vous savez, on avait ça dans
la France, absolument.
Et les configurations
changent constamment.
Mais elles changeaient quelquefois de siècle en siècle. Maintenant, elles changent de jour en jour. Oui. Le lendemain d'une nouvelle, vous avez une nouvelle qui contredit.
Absolument. Alors, vous notez des pays qui émergent, d'autres qui sombrent, la fin des races, des nations, des barrières, des différences. Donc, on finit par avoir une sorte d'uniformité.
Mais bien sûr, tous les aéroports se ressemblent. Par exemple, toutes les autoroutes se ressemblent. Vous arrivez en Inde, vous vous dites d'abord, mais c'est la même chose que l'aéroport de Bombay, ça ressemble beaucoup à l'aéroport de Roissy, vous savez. Et cette uniformité est sûrement un danger. Mais c'est vrai que vous voyez bien quand même que quand Teilhard de Chardin parlait de vous savez, de cette marche en avant vers l'alpha et l'oméga, il y a quand même une espèce de progrès de la conscience. Il y a un progrès de la conscience.
Vous en êtes bien certain, parce qu'il y a quand même autour de nous des génocides, des batailles terribles qui font douter de ce progrès de la conscience.
Il y a des génocides, il y a des crimes épouvantables.
Oui.
Mais il y a quand même une conscience qui se fait. Ces crimes ne peuvent plus passer totalement inaperçus. Il y a tout de même une sorte de progrès de la conscience. Il y a aussi une sorte de, pour reprendre sur la nation, il y a quand même une espèce de rapprochement entre les hommes. Quelle est la grande révolution ? La grande révolution, c'est pas vraiment le socialisme, c'est pas vraiment le communisme, c'est tout de même le christianisme. Le christianisme, ça a été quand même une religion pour les esclaves. Jusqu'au christianisme, l'esclavagisme est absolument admis. Il sera admis encore pendant très très longtemps, à l'époque de saint Thomas d'Aquin. L'esclavagisme existait encore. À l'époque de Bossuet, il y avait encore un esclavagisme qui était très peu dénoncé, puisqu'il finit par être dénoncé au 19e et au 20e siècle. Et il y a quand même un mouvement de rapprochement entre les nations et le rapprochement entre les races.
Alors, je vous interroge, Jean Dormisson. Ce rapprochement, finalement, vive Internet, vive les portables, parce que moi j'ai vu que en Iran, malheureusement, ça n'a pas porté totalement ses fruits, mais les étudiants qui se rebellaient il y a deux ans, ils étaient en contact avec des Iraniens qui étaient à Paris, par exemple, mais, par le portable.
Mais le portable et Internet sont des facteurs d'évolution et de révolution, certainement.
Ouais.
Certainement. Moi, je suis trop vieux pour m'en servir, mais je n'ai pas du tout l'importance du portable que je n'ai pas ou d'Internet dont je ne me sers pas.
Oui.
Et il y a ce mouvement de rapprochement.
Un rapprochement des populations. Mais alors, on pourrait faire de la science-fiction, là, finalement.
On peut faire de la science-fiction. Vous savez, on a beaucoup parlé de quand la Chine s'éveillera.
Mmh.
C'est pas quand elle s'éveillera.
Elle s'est éveillée.
Elle est éveillée. Et j'ai appris quand même, il y a 8 jours, que le produit intérieur brut de la Chine va dépasser le produit intérieur brut des États-Unis. Qui aurait cru ça? Et moi, je crois beaucoup que nous verrons dans 100 ans ou dans 200 ans un continent monté qui est l'Afrique. L'Afrique qui est si malheureuse aujourd'hui.
Mais avec tant de potentialité.
Tellement de pauvreté, tellement de division, tellement de corruption.
Ouais.
Mais je suis sûr que elle va dominer tout ça, et je suis sûr que l'Afrique va nous apporter des grandes surprises dans 100 ans, avant 100 ans.
Alors, dans une seconde partie, vous dites, en même temps, rien ne change. En effet, dans cette seconde partie, Marie apparaît. Alors Marie, c'est un peu comme le personnage dont vous avez parlé tout à l'heure, Capot, je n'ai plus le nom en tête, mais enfin bon, Marie, c'est l'image de la femme.
Oui, bien sûr, c'est l'image composite,
voilà.
Bien sûr.
C'est votre muse là-dedans.
Bien sûr, c'est Béatrice.
C'est Béatrice, exactement. Oui. Voilà. L'amour, vous dites que c'est ce qui a compté et dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez écrit. L'amour, et j'imagine que c'est l'amour en général, l'amour des femmes certainement, mais l'amour des êtres, des
Bien sûr. Vous savez, c'est quand même assez frappant. Le dernier vers de la Divine Comédie de Dante. L'amour, che muove il sole e l'altre stelle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. la gravitation, est-ce que ce n'est pas une forme d'amour? Les quatre fameuses formes physiques qui tiennent le monde ensemble, la force forte, la force faible, la gravitation et l'électromagnétisme, ce n'est pas des formes d'amour? L'espèce de...
D'attirance.
La marche des étoiles et du soleil, c'est une forme d'amour. Mmh. Il y a cette espèce d'attirance universelle. Mmh. Le fait que si vous voyez quelqu'un en train de mourir au bord de la route, vous allez quand même l'aider. Et alors évidemment, il y a une religion où l'amour tient un rôle plus grand que les autres, c'est le christianisme. La compassion joue un grand rôle dans le bouddhisme, qui n'est pas une religion, comme vous savez.
Alors qu'est-ce qui ne change pas? Rien ne change.
Mais ce qui ne change pas, c'est le soleil, la marche des étoiles...
La beauté de la nature, vous en parlez.
Mais tout ça, nous savons très bien que tout ça finira par être détruit. Mmh. Y a une histoire que j'aime beaucoup, un imbécile comme moi fait une conférence, il dit le soleil a 5 milliards d'années, il est à peu près à mi-chemin de son existence et il va disparaître dans 5 milliards d'années, ce qui est une certitude scientifique. Mmh. À ce moment-là, il y a une jeune fille qui s'évanouit au fond de la salle. Alors on lui donne un verre d'eau et on lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit « Comment ? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit, le conférencier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le soleil allait disparaître dans 5 millions d'années. On dit non, 5 milliards d'années. Oh, j'avais entendu 5 millions. Alors évidemment, 5 millions, 5 milliards, le monde est tricoté de telle façon que ça n'a aucune importance. Mais il disparaîtra, tout disparaîtra. Oui. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y aura une fin du temps. Le temps est apparu, l'espace et le temps apparaissent avec le Big Bang. Eh bien, je suis persuadé qu'il y aura une fin.
Alors, mais rien ne change, j'y reviens. D'ailleurs, dans cette partie-là, vous parlez de livres, de la littérature, de l'art, finalement. Bon, l'art est toujours présent, rien ne change, c'est l'amour de la littérature.
Mais oui, bien sûr, on pourrait presque dire que chaque livre est une espèce de manifestation d'un désir d'éternité. Il y a ce désir d'éternité chez l'homme, il ne peut pas s'empêcher de penser que les gens qu'il a aimés, il les retrouvera peut-être. Je pense que dans toutes les cultures, il n'y a pas un Dieu unique. Hein. Le Dieu unique arrive assez tard dans la culture. Mais il y a toujours eu l'idée que peut-être il y avait autre chose. Enfin, qu'il y avait autre chose. Et cette autre chose... se traduit dans notre monde par l'amour. Il n'y a pas d'autre façon, je dis même dans le livre, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon d'aimer Dieu que d'aimer les hommes.
Ainsi s'arrête la première partie de notre émission avec Jean Dormesson autour de son ouvrage « Un jour je partirai sans en avoir tout dit ». Vous pourrez écouter la suite et la fin de cet entretien la semaine prochaine.